Et bonjour, une nouvelle émission de « Et si on en parlait ?» avec toujours Johan à la technique, avec deux jolis petits stagiaires et Marie-Noëlle Gachet, mon invitée d'aujourd'hui. Bonjour.
Bonjour Michel.
Tu vas bien ?
Oui, ça va très bien.
On se tutoie parce qu'on se connaît depuis très longtemps. Alors, tu tiens toujours la ferme équestre de Saint-Gauzy ?
Oui.
Donc, ça parle de chevaux, bien sûr, forcément.
Toujours, avec
de
des poneys. Chevaux, voilà, et des chevaux et poneys depuis 40 ans de ma vie.
Mais on va essayer de te connaître un peu plus, parce que les gens ne te connaissent pas. Tu es né quand ? Alors, je ne sais pas si ça se fait avec les dames, mais moi je le fais. Tu es né quand ?
Alors, je suis né le exactement. 26 décembre 1959.
Et c'est quel signe, ça aucune
alors,
idée ?
Alors, je suis Capricorne, ascendant Gémeaux.
D'accord.
Et voilà, je suis née en 1959, j'ai donc 58 ans depuis...
Ben c'est tout jeune, c'est impeccable.
Voilà, c'est l'âge.
Et tu es née où ?
Je suis née à Aix-en-Provence.
Ah, oh, joli. Cours-Mirabeau.
Je suis, oui, pas à Cours-Mirabeau, mais je suis née Cours-Sextus. Enfin, ma grand-mère habitait Cours-Sextus. Voilà.
Et qu'est-ce que tu es venue faire dans la région ?
Du cheval.
Alors, tu as fait toute ta petite enfance là-bas ?
Oui, j'ai fait ma petite enfance là-bas. J'ai été au lycée à Avignon. Et je suis arrivée dans l'Aveyron, j'avais 19 ans.
D'accord.
Voilà.
Et tu as fait les études jusqu'à quand ?
J'ai fait des études jusqu'à 19 ans. J'étais
j'ai
passé un bac.
Tu as eu un bac, très bien.
Un bac agricole, un bac des primes à l'époque. Donc c'était un bac.
Des primes ?
Oui, ça s'appelait des primes.
D'accord.
Ouais, c'était l'équivalent d'un bac D, donc scientifique avec des matières agronomiques en plus. Donc j'ai passé mon bac, puis j'étais en fac à Marseille, faire biologie. Et puis, j'ai eu du mal à supporter la fac, la vie en ville. Et je ne suis pas restée très longtemps en fac. Et donc, j'ai arrêté la fac. Et après, j'ai choisi d'aller dans ma passion. Voilà.
Le cheval.
Donc, dans la vie, j'aimais les enfants et les chevaux. Donc, j'ai décidé de partir. Ouais, c'est comme ça que j'ai commencé, en fait. Voilà.
D'accord. Et tes parents ? Qu'est-ce qu'ils faisaient, tes parents ? Tu les as encore, tes parents ?
Non, mes parents sont décédés tous les deux. Ma mère était secrétaire, puis ensuite elle s'occupait d'une galerie de peinture. Et mon père était agent immobilier.
D'accord, et frère et sœur, non ?
Oui, donc j'ai un petit frère qui est décédé quand j'étais petite. Et puis une sœur qui a 10 ans de plus que moi, qui est institutrice et qui est à la retraite là. Et un frère qui est prof de français, latin, grec et qui habite à Besançon.
D'accord.
Voilà.
Et donc tu es mariée, tu as des enfants.
Voilà, je suis mariée, j'ai deux enfants, un de mon premier mariage et un garçon qui maintenant a 28 ans, qui s'appelle Simon, et une fille qui s'appelle Léa, qui a 19 ans, voilà, qui est actuellement en fac sur Toulouse.
D'accord, quelle est la première fois que tu as fait du cheval ?
La première fois que j'ai fait du cheval. Alors,
qu'est-ce qui t'a donné envie de faire du cheval ?
En fait, quand j'étais petite, j'avais très envie de faire du cheval. J'avais très envie de m'approcher des chevaux. Et c'était drôle parce que je voyais les chevaux quand les gens les voyaient pas. C'est-à-dire que quand on se promenait en voiture, par exemple, moi, je voyais des chevaux dans un pré que personne ne les avait vus. Et j'avais très envie de monter à cheval, mais j'avais une scoliose. Donc les médecins avaient dit, ben non, c'est pas possible, avec sa scoliose, c'est pas indiqué. Donc on m'a fait de la danse classique. J'adorais ça. C'était difficile pour moi et j'ai attendu patiemment d'avoir 12 ans, puisqu'à 12 ans, on m'avait dit que la croissance était avancée et que donc, voilà. Et donc j'ai enfin pu faire du cheval à 12 ans. Et la première fois que je suis montée à cheval, c'est mon cousin. J'avais un cousin qui s'appelait Didier, qui montait à cheval, qui m'a amené faire une promenade en me tenant en main. Et c'est lui qui m'a amené, la première fois, c'est Didier qui m'a amené, voilà, c'est mon cousin Didier. Et après, je suis montée à cheval avec dans un petit centre équestre à côté d'Aix-en-Provence et c'est mon oncle Philippe qui était cavalier depuis longtemps qui m'emmenait avec ma tante qui m'emmenait monter à cheval, voilà, et ça a illuminé mon adolescence.
Et comment on devient alors comment on entre dans le métier que tu fais là ?
Ah.
Alors c'est quoi exactement ton métier ?
Alors, mon métier, c'est moniteur d'équitation au départ. Aujourd'hui, c'est moniteur d'équitation toujours, mais c'est aussi, je fais plus qu'être moniteur, puisque je fais de la médiation par le cheval, je m'occupe de personnes handicapées, et je m'occupe de bien-être aussi avec les chevaux. Voilà, c'est aujourd'hui je fais ça. Comment on entre dans ce métier ? On entre dans ce métier en général par passion de l'animal, par passion, voilà. Parce qu'on monte à cheval, parce que on, voilà. Moi, je suis rentrée dans ce métier parce que j'étais en fac, que c'était, je voulais être géologue, hein. Je voulais pas du tout être moniteur d'équitation. Et puis j'ai arrêté la fac et ma mère m'a dit, bah c'est très bien, tu arrêtes la fac, mais moi je vais pas te nourrir à rien faire. Donc faut que tu trouves quelque chose dans ta vie. Et elle m'a dit, fais attention parce que dans la vie on passe 80% de notre temps à travailler. Donc essaye de te trouver quelque chose qui te plaît, quoi. Voilà.
Ça et, c'est déjà fantastique.
Voilà. Et moi dans la vie j'aimais les enfants et les chevaux. Donc je suis partie au Salon du Cheval de Marseille et j'ai trouvé quelqu'un qui m'a embauchée pour venir dans l'Aveyron. Voilà, j'avais 18 ans et demi à l'époque et il m'a embauchée. Je suis venue à Asprières avec mon cheval pour travailler.
Tu avais un cheval déjà?
Oui, j'avais un cheval, mais c'était
comment
un peu compliqué. Il s'appelait Jade.
Jade.
Oui. Et je suis arrivée à Asprières et en fait, je suis arrivée à Laurière à ce moment-là. Voilà, j'étais embauchée pour travailler à Laurière sur les premières classes de nature avec cheval.
Là où on s'est vus.
Voilà, là où on s'est connus.
On en parle après, on écoute la première respiration musicale que tu as choisi, Nino Ferrer. Le sud, voilà, c'est voilà. Tout est dit.
C'est un endroit qui ressemble à la Louisiane, à l'Italie. Il y a du linge étendu sur la terrasse. Et c'est joli. On dirait le sud. Le temps dure longtemps. Et la vie sûrement. Plus d'un million d'années. Y'a plein d'enfants qui se roulent sur la pelouse. Y'a plein de chiens. Y'a même un chat, une tortue, des poissons rouges. Il ne manque rien. On dirait le sud. Le temps dure longtemps. Et la vie sûrement. Plus d'un million d'années. On le sait bien. On est
n'aime pas ça, mais on ne sait pas quoi faire. On dit c'est le destin.
Voilà, le sud, d'abord Aix-en-Provence, et puis après, on arrive à Laurière.
Voilà.
Et Laurière, il y a un centre équestre.
Et Laurière, à l'époque...
Il y en avait.
Laurière, au départ, il n'y avait rien du tout. Donc, la première... Moi, je suis arrivée la première année avec les premiers chevaux sur Laurière. Voilà, donc j'étais louée avec des chevaux, en fait. Et donc, je suis arrivée pour faire les premières classes de nature. On avait 10 chevaux qui étaient juste à côté de la cuisine, là où il y avait des arbres fruitiers, là. Donc, les chevaux, ils étaient là, voilà. Après, la deuxième année, ils ont été à Lauréat. Il y avait une pinède, ils avaient été là-haut. Et les installations étaient construites bien plus tard, quoi, à Laurière.
Voilà.
Mais au départ, donc, les chevaux étaient là. Et j'ai fait les premières classes de nature et les premières colos. Alors, je ne me rappelle plus en quelle année.
C'était
voilà.
La Fédération des œuvres laïques.
C'était la Fédération des œuvres laïques, oui.
D'accord.
Ouais.
Et donc, c'est là où tu as fait vraiment tes premières armes en tant que... Instructrice,
oui, c'est là que j'ai commencé. En fait, j'ai commencé quand je suis arrivée dans l'Aveyron, donc embauchée par ce loueur de chevaux. En fait, c'est comme ça que j'ai commencé. Et il m'a mis au milieu d'une carrière pour faire des cours avec des gens. Moi, j'avais jamais fait de cours avec des gens. Et puis, en fait, tout de suite, je me suis sentie très à l'aise. Et les gens étaient très contents de monter avec moi et réclamaient que je leur fasse des cours, que ça soit moi qui vienne, voilà. Et donc, tout de suite, c'est quelque chose qui m'a plu et dans lequel c'était assez facile pour moi.
Et est-ce que tu avais des diplôme déjà ?
Non, j'avais pas de diplôme. Enfin, j'avais mon second degré, puisqu'à l'époque, on pouvait enseigner en classe de nature avec un second degré, qui est aujourd'hui les prends d'argent ou le galop 7.
Voilà. Alors, les degrés, c'est quoi alors ?
Les degrés, ce sont les diplômes d'équitation, les diplômes fédéraux d'équitation. Donc, comme les étoiles en ski. Et à l'époque, il y avait premier et deuxième degré. Aujourd'hui, ce sont des galops. Et donc, aujourd'hui, le premier degré équivaut au galop 4 et le deuxième degré équivaut au galop 7. Donc, moi, quand je suis arrivée dans l'Aveyron, j'avais mon deuxième degré. Et avec mon deuxième degré, j'avais le droit d'enseigner, non pas à tout le monde, mais au moins au centre de vacances. C'était autorisé. Puis après, la législation a changé. Il a fallu passer son monitorat. Ce que j'ai fait quelques années après, puisque j'ai passé mon monitorat à 21 ans. Voilà. Puisqu'après, une fois que j'étais à Laurière, j'ai donc travaillé avec les classes de nature. Et rapidement, j'ai eu quelques élèves, des gens de Villefranche qui voulaient venir monter. Donc j'ai eu quelques élèves de Villefranche. J'ai embauché une monitrice. Et puis, c'était compliqué. Ça ne s'est pas très bien passé. Et donc, j'ai parallèlement préparé mon monitorat que j'ai eu l'année suivante. Et quand j'ai eu mon monitorat, ben, j'ai pu prendre des élèves de Villefranche. Et à l'époque, j'étais seule sur Villefranche. Hein, il n'y avait pas du tout de centre équestre à droite, à gauche. Et donc, j'ai commencé à faire cette activité sur Villefranche. Et j'ai eu plein d'élèves, puisque aujourd'hui, en fait, tous les centres équestres alentours sont des élèves qui viennent de chez moi.
D'accord.
Éric Lagarrigue, Thibaut Régnier, Didier Fraisse, c'est pas un élève, mais il a travaillé avec moi. Antoine Alescure-Jaoud, il est passé chez moi pour passer son brevet de moniteur de colonie de vacances. Voilà. Marie-Pascale Adaoudou est passée par chez moi aussi. Voilà. D'accord. Donc c'est assez rigolo.
Ensuite, tu es parti, il me semble. Je ne suis pas sûr, hein, je vais dire une bêtise peut-être. Avant d'être à Saint-Gauzy, tu étais à un autre centre avant.
Oui, alors, donc j'ai eu Laurière et après j'ai repris Monteil.
Monteil, voilà.
Je suis restée 10 ans à Laurière et puis j'ai repris le centre équestre de Monteil pendant 10 ans. 12 ans, je suis restée à Monteil. Voilà. Et j'ai gardé, j'avais les deux, j'avais Laurière et Monteil pendant 12 ans. Voilà, mais ça, c'était lourd, quoi. C'était pas facile à gérer. Et donc, j'ai souhaité arrêter et diminuer un peu l'activité. Et j'ai donc arrêté de mon propre chef, le centre équestre de Monteil. Et à l'époque, je n'ai gardé que le centre équestre de Laurière. Et une petite activité chez moi, puisque j'avais donc, on avait donc acheté la maison à Saint-Gauzy. Et donc, on avait gardé une petite activité et on recevait des, on avait des enfants. Puisqu'à Laurière, c'était uniquement la, les colonies et les centres de, et les classes de nature. Et
chez moi, aussi.
Voilà, toujours avec la FOL, la Fédération des œuvres laïques. Et donc, chez, à la maison, on avait des enfants qui venaient le mercredi. C'était tout à fait d'accord avec Monteil, hein, quand j'avais arrêté avec eux. On avait tout à fait été d'accord sur ce principe-là. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire des stages où donc j'avais des enfants qui venaient le mercredi et ils restaient chez moi tout l'après-midi. C'est-à-dire que je, dès le départ, vu que j'habite un peu loin, c'était difficile de faire des cours à l'heure, donc les enfants restaient tout l'après-midi. Et puis de fil en aiguille, ils restaient tout l'après-midi. Puis pendant les vacances, ils restaient toute la journée. Puis ils sont restés dormir. Et on a commencé à faire des stages avec hébergement. Et c'est comme ça qu'on a développé l'activité à Saint-Gauzy.
D'accord. On va écouter maintenant Santana, Europa. Alors ça, mais tu as de bons choix musicaux. Alors c'est son stagiaire qui envoie la musique. C'est parti. Thank you. Santana, Carlos Santana, super, Europa. Tu as de bons choix musicaux.
Ah oui, ça fait partie de mes musiques préférées.
T'as toutes les qualités, Santana. T'es mignonne,
oh non,
t'as de bons choix
musicaux, c'est la folie. J'aimerais bien, mais il vaut mieux pas avoir toutes les qualités, c'est trop triste.
Bon alors, comment, si par exemple, bon, ça m'est arrivé, mais maintenant, si j'ai un enfant qui veut faire du cheval, qu'est-ce que je dois faire?
Alors,
qui, déjà, le contact, est-ce que tu as un contact?
Alors, si tu as un enfant qui veut faire du cheval, ou si toi tu veux faire du cheval, parce que je ne m'adresse pas qu'aux enfants, hein, j'ai un peu l'étiquette
moi,
des enfants.
Moi, je sais
enfants,
en faire.
Mais...
Donc,
toi, tu sais en faire. Mais, tu
mais j'en ai fait longtemps. Hein,
oui, mais sûr. Tu peux avoir envie d'en refaire, ou d'en faire différemment.
Oui.
Parce que ce que je propose, c'est un peu différent de ce
alors,
que les autres proposent.
Alors, c'est quoi que tu proposes? Vas-y.
En fait, ce que je propose, c'est une équitation qui est basée sur une approche de l'animal. En fait, je propose d'abord une compréhension de l'animal. Voilà. D'abord une écoute de l'animal, une compréhension de l'animal et une écoute de l'humain et une compréhension de l'humain. Voilà. Je propose un travail des deux. Voilà. Une écoute particulière de l'un et de l'autre. Alors, je trouve que on a souvent oublié en équitation qu'on avait affaire à un animal et on a affaire à un animal qui n'a pas les mêmes codes de vie que nous et qui a n'a pas les mêmes codes de communication. Or, on fait faire de l'équitation aux gens sans leur donner les codes de communication du cheval et sans apprendre aux gens à voir si l'animal est d'accord, content, pas content, et à prendre le temps d'être avec cet animal et de créer une véritable relation. Voilà. Donc moi, je propose de créer une relation et après de faire de l'équitation. Et dans l'équitation, de continuer à entretenir cette relation. Voilà, en gros. Hein,
parce en que, gros. Voilà. Et à quoi tu sais qu'un cheval est d'accord pour qu'on lui mette quelqu'un sur le dos?
Alors, ils ne sont pas toujours d'accord pour qu'on mette quelqu'un sur le dos. Et ce n'est pas du tout... je dis souvent à mes élèves, hein, le cheval n'a jamais demandé à faire de l'équitation.
Mais c'est hein. Ce que je veux dire.
Le cheval, il a demandé à être dans son pré avec ses copains à manger de l'herbe. Hein. Donc, si
d'avoir
on,
quelques juments, quand même.
Pas forcément, il a d'avoir quelques juments si c'est un entier, mais s'il est castré. Mais par contre, de vivre en groupe.
Hein, voilà une question qui m'a... Parce que moi, j'ai eu un cheval, là, quand j'étais dans le Gers, qui s'appelait Najak, justement. Et quand je partais, il sautait partout, hein, puis il y avait des plaintes, il allait sur la route, il fallait le faire castrer. Moi, je ne voulais pas le faire castrer. Parce que je m'imagine, moi, comme le fasse, ça ne me plairait pas.
Et oui, c'est une grande question, mais d'un autre côté, si un cheval pas castré, c'est un cheval qui a des pulsions avec les juments, c'est un cheval qui peut être dangereux. À la fois, ton cheval, il sortait des clôtures, il allait sur la route.
Oui,
et donc,
sais.
Moi, je trouve qu'il vaut mieux faire castrer un cheval plutôt que de lui interdire toute sa vie de saillir les juments. Ou alors, il faut le laisser dans le pré avec les juments et l'autoriser à le faire. Voilà. Mais s'il est pas castré et... S'il n'est pas castré, en plus, il est dangereux. Enfin, il faut faire attention quand même dans l'enseignement, avec les élèves, parce qu'il va avoir des pulsions quand les juments sont en chaleur, ce qui est normal.
Ah, mais je sais.
Donc, voilà. Au niveau du travail et de l'utilisation, il est quand même plus simple d'avoir un cheval castré. Il va être, je trouve, moins brimé s'il est castré que s'il n'est pas castré et qu'on l'empêche de répondre à ses pulsions.
Oui, voilà. Bien sûr. Ça, pourtant, il n'a pas demandé à être castré, mais bon.
Il n'a pas demandé à castrer, mais il n'a pas demandé à être castré, mais il n'a pas demandé
enfin,
à castré, faire...
pour les gens qui ne savaient pas, c'est...
Couper les testicules.
On enlève les testicules pour plus qu'ils soient...
Voilà.
Voilà.
Après, il faut quand même savoir qu'un cheval qui n'est pas castré est plus vif, plus difficile d'utilisation qu'un cheval qui est castré. Donc, à la fois, il n'a pas demandé, mais à la fois, si aujourd'hui, les chevaux existent encore, c'est aussi parce qu'il y a de l'activité, d'une activité qui se fait avec, et donc des centres équestres, et que les centres équestres ne peuvent pas avoir de chevaux castrés, et que s'il n'y avait que des chevaux entiers et des juments, peut-être qu'il y aurait moins de chevaux sur la terre aujourd'hui.
Les chevaux de course, ils ne sont pas forcément castrés.
Ils ne sont pas forcément castrés, mais... Ils ne sont pas forcément castrés par, souci financier. C'est-à-dire qu'un cheval de course va gagner en course, va potentiellement gagner en course.
S'il gagne, il devient reproducteur.
Il devient reproducteur.
Et
s'il devient reproducteur, ça apporte des sous. Ce n'est pas juste pour le plaisir qu'il ne soit pas castré, hein, ne rêvons pas. Hein. Dans le monde du cheval, et l'humain en général, n'a pas toujours une grande conscience du bien-être de l'animal.
C'est toujours le pognon qui fait marcher.
Voilà, il a plutôt conscience de ce qui va rentrer dans sa poche. Hein. Voilà. Donc, voilà.
Est-ce qu'il y a des juments qui ont mauvais caractère?
Oui, il y a des juments qui sont de mauvais caractère, des juments qui ont des alors beaucoup de juments ont des problèmes d'ovaires. On méconnaît souvent ce problème-là. Beaucoup de juments ont des maux de ventre et ont des problèmes d'ovaires.
Ah ben c'est comme les femmes, quoi.
Oui, et les juments sont en général plus délicates, d'un caractère plus en dents de scie. Voilà, mais comme les femmes, hein, c'est sûr, hein, elles ont des cycles. Alors c'est vrai qu'un cheval castré, du coup, n'a plus du tout ce genre de comportement. Un ongre est toujours plus facile d'utilisation qu'une jument. Voilà. Dans un travail régulier, voilà.
Tout à fait. Alors, donc moi je t'avais demandé le contact. Si je veux t'appeler, c'est où ?
Le contact, donc tu m'appelles par téléphone, oui. 06 07 53 02 37.
D'accord, il faut le redire, sinon
alors, je le redis, sur le 06 07 53 02 37, et là tu tombes sur mon portable, que j'ai toujours avec moi, et soit tu me laisses un message, soit je te rappelle, et du coup, quand je te rappelle, enfin, quand on rentre en contact, tu m'expliques un peu ce que tu cherches, et je vais te donner un rendez-vous pour qu'on se rencontre, et qu'on échange un peu ensemble sur ce que je fais, sur ce que tu recherches, voilà.
T'as un site ?
J'ai un site internet, donc mon site internet c'est www.equigauzy12.fr.
E-Q-U-I-G-A-U-Z-Y.
Y-12.fr.
.fr, d'accord.
Donc sur mon site internet, voilà, j'ai travaillé pas mal l'an dernier. Bon, c'est un site internet que j'ai fait moi-même avec quelqu'un, mais. Et donc, les particularités de ce que je propose sont pas mal exposées sur le site, avec pas mal de photos. Donc, les gens qui sont intéressés peuvent aller voir pour en savoir un peu plus. Puisque aussi, dans les particularités de ce que je propose, donc je propose de l'équitation adaptée. Je propose de l'équitation classique, des cours classiques normaux, dans l'écoute avec l'animal, mais je propose aussi de l'équitation adaptée aux personnes en recherche de bien-être. Donc je peux travailler avec des personnes sur la gestion du stress, sur la gestion des émotions et sur la recherche du bien-être, tout simplement. Ensuite, je propose de l'équitation adaptée aux personnes en situation de handicap. Je travaille avec une personne qui a la maladie d'Alzheimer, avec un petit garçon qui est autiste, avec différents handicaps physiques et psychologiques. Et voilà, et je m'adresse autant aux adultes qu'aux adolescents et aux enfants.
D'accord. Saint-Gauzy, c'est après la Rouquette, par la bonne ?
Oui, Saint-Gauzy, c'est après la Rouquette. En continuant la Rouquette, direction Monteil, et sur le plateau, sur la droite.
D'accord. En pleine nature. Et donc, pour rejoindre la nature, on va écouter un petit peu de musique classique. On va écouter un petit morceau de l'Adagio d'Albinoni. On écoute.
Thank you.
Voilà, on laisse en fond l'adagio d'Albinoni. C'est une passion pour toi parce que tu as débuté au hautbois.
Oui, donc, je fais de la musique quand j'étais petite. J'ai fait de la musique. J'ai fait 7 ans de conservatoire.
Ah, quand même.
Et oui. Oui. Et donc j'ai fait du hautbois là pendant 5 ans. Ouais. Et j'ai arrêté et j'ai repris ensuite quand je suis arrivée dans l'Aveyron. Et puisque, coïncidence, le professeur de hautbois de l'école de musique, Jean-Marc Arnaud, faisait du hautbois avec moi quand on était petit à Aix-en-Provence.
Oui, voilà.
Et donc on s'est retrouvés à Villefranche. Il est maintenant directeur de l'école de musique de Villefranche et de Rieupeyroux. Mmh. Et donc j'ai refait du hautbois avec Jean-Marc pendant 3 ans, je pense, ici. Et puis le hautbois, c'est un instrument qui demande vraiment un travail très très régulier et malheureusement les chevaux prennent beaucoup de temps.
Mmh.
Et voilà, petit à petit j'ai eu moins de temps pour le hautbois, trop de temps pour les chevaux.
Est-ce que quand il y a des cours là-bas, ça se passe à l'intérieur et à l'extérieur, mais quand c'est à l'intérieur, est-ce qu'il y a de la musique par exemple?
Alors jusque-là il n'y avait pas de musique parce qu'on n'avait pas de manège couvert. Donc là, on a un manège couvert depuis peu, et avec l'électricité depuis peu.
D'accord.
Donc, effectivement, mon grand vœu, c'est de mettre de la musique. Et voilà, moi, j'ai adoré quand j'étais dans mon centre équestre, quand j'étais à Monteil, entre autres, monter mes chevaux en musique. Voilà, j'adorais ça, quoi. Les chevaux sont très sensibles à la musique.
Alors, quel style de musique, par contre, ils aiment?
Plutôt la musique tranquille, quand même.
Tranquille, comme par exemple l'adagio d'Albinoni.
Voilà, ouais. Et en fait, ils sont très sensibles à la musique, mais aussi ils sont très sensibles au corps du cavalier. Et bien entendu, quand tu mets de la musique douce, le corps du cavalier va se détendre, et donc le cavalier va être plus juste dans ses actions sur le cheval, plus détendu. Si on met une petite musique de rock un peu speed, je ne suis pas sûre que le cavalier soit super détendu, et je ne suis pas forcément sûr que le cheval y trouve autant de plaisir. À voir, hein, encore, parce que ça peut être vraiment lié au mental du cavalier. Si le cavalier est vraiment bien parce qu'il écoute cette musique, ça lui fait vraiment du bien, il peut y avoir une transmission à l'animal, quoi. Voilà.
Combien tu as de chevaux et de poneys?
Alors, j'ai 20 chevaux et poneys, et bien assez. Mmh. Voilà, puisque j'ai des petits poneys qui font à peu près 1 mètre pour les enfants plus petits, des poneys moyens qui font dans les 1m20, des poneys un peu plus grands, 1m30, 1m40, et puis 2-3 chevaux plus grands pour les adultes et les personnes plus grandes. Après, j'ai un vieux cheval, 3 poulains, donc voilà, du coup, le cheptel arrive à 20. Et en cette saison, un cheptel de 20, c'est pas facile.
C'est sûr. Et quand les chevaux sont malades, c'est dur de les tuer ou pas? Il faut les tuer ou pas?
Alors, quand les chevaux sont malades, d'abord on les soigne.
Oui, bien sûr.
Voilà. Après, c'est arrivé que je fasse euthanasier un cheval. Non pas... c'est arrivé une fois dans ma vie que je le fasse euthanasier parce qu'il était malade. Sinon, quand j'ai fait euthanasier des chevaux, j'ai fait euthanasier des chevaux parce qu'ils étaient en fin de vie. Parfois malades, mais en fin de vie. Voilà. Sinon...
Un cheval qui se casse une patte, par exemple.
Alors, ça m'est arrivé une fois, voilà, sur une jument qui s'est cassée un membre.
Parce que ça ne se soigne pas.
Et qui s'est cassée un membre avec une fracture ouverte. Donc là, insoignable.
Comment ça fait que ça ne se soigne pas alors que,
ça ne se soigne pas parce que les chevaux bougent beaucoup. Enfin, ça se soigne, hein. Il y a certains chevaux qui sont plâtrés, ça dépend des fractures. Mais le problème, c'est que le cheval, c'est un animal qui ne peut pas rester immobile. C'est un animal qui doit sa survie dans la nature à sa vitesse de fuite. Donc c'est un animal qui bouge tout le temps. Et donc il ne va pas rester immobile très longtemps. Et voilà. Mais certaines fractures peuvent se soigner quand même, puisque un cheval peut quand même rester au box, immobilisé. Certains chevaux le supportent mieux que d'autres. Mais sur des fractures, je sais qu'il y a des chevaux qui sont immobilisés plusieurs mois au box. Le problème, c'est un peu la calcification, que le cheval ne bouge pas trop et qu'ensuite, il n'y ait pas de dommages. Puisque si on répare la fracture mais qu'il reste boiteux, il va être de toutes les façons inutilisable. Donc soit C'est un cheval pour qui le propriétaire a beaucoup d'affection et donc peut le garder. Et il y a aussi les moyens de le garder, hein, puisque financièrement parlant, ça coûte quand même cher, quoi. Mais un cheval qui travaille ou un cheval qui travaille pas, il va vous coûter presque le même prix, hein, puisqu'il va manger la même chose.
Les vétos, ça doit coûter bonbons aussi.
Oui, oui, mais tout coûte bonbons. Alors le problème chez les chevaux, tout coûte bonbons.
Oui, c'est ça.
Le véto, la sellerie, tout à partir du moment où il y a marqué cheval, coûte plus cher que s'il n'y a pas cheval.
Voilà. Plus cher qu'une femme. Là, je plaisante parce qu'on va me faire des pensées. Je plaisante, messieurs. Humour. Alors, parlons pognon. Combien ça vaut de venir faire du cheval?
Alors, pour venir faire du cheval à Saint-Gauzy, sur des cours enfants, en cours collectif, sur des séances d'une heure et demie, deux heures, la séance est à 18 euros. Sur des séances de l'après-midi, la séance est à 25 euros. Pour les adultes, je propose un travail... alors voilà, ça c'est donc le mercredi, le samedi pour les enfants, 18 ou 25 euros. J'ai également des petits qui viennent tous les 15 jours, et là, la séance est à 21 euros. Donc je précise que nous avons des tarifs un peu plus élevés que sur d'autres centres équestres locaux, mais les enfants restent longtemps chez nous, hein, c'est-à-dire qu'ils restent sur des séances d'une heure et demie, mais ils sont là en général bien deux heures, quoi. Voilà. Voire deux heures et demie. Voilà, ça c'est pour les enfants. Pour les adultes, je propose des cours personnalisés en semaine sur rendez-vous, qui sont des séances d'une heure et demie, voire jusqu'à deux heures, où je prends les gens seuls ou à deux. Et là, je suis sur un tarif de 55 euros une séance. Et ensuite, pour les gens qui viennent régulièrement, 45 euros. Actuellement, je n'ai pas de cours collectif adulte parce que je trouve que les adultes ont une demande très précise et souvent ont une demande d'attention particulière à eux qu'on ne peut pas leur donner sur un cours collectif où ils vont être à 4 ou 5 personnes. Donc effectivement, mes tarifs sont plus élevés, hein, puisque je prends les gens seuls ou à deux, hein, mais j'ai des gens qui viennent chez moi, par exemple, tous les 15 jours, mais qui préfèrent venir chez moi tous les 15 jours que d'aller toutes les semaines dans un centre équestre qui va coûter moins cher, où ils vont être en cours collectif et où on va pas assez être à leur écoute et prendre en compte leurs besoins. Voilà, moi, j'essaye de faire ça.
D'accord. Et est-ce qu'il y a des stages, des fois, de plusieurs jours?
Oui, pendant toutes les vacances, il y a des stages pour les enfants qui sont de la demi-journée, la journée ou de plusieurs jours. Donc actuellement, pour les vacances de février, par exemple, on a des stages de demi-journée, journée ou la journée, et des enfants qui viennent deux jours, mais sans hébergement pour ces vacances-là, puisqu'il n'y a pas eu la demande. À Pâques, nous allons proposer des séjours de trois jours ou de cinq jours.
Avec hébergement.
Avec hébergement. Ou sans. Hein, puisque,
donc dans les locaux, tu as les...
Oui.
Ce qu'il faut pour la...
Oui, j'ai cinq chambres, une grande salle, enfin on a une grande structure d'accueil, hein, quand même chez nous. Hein. Et donc les enfants sont logés dans des chambres par deux ou par trois, puisqu'on reçoit par petits groupes, hein, moins de sept enfants par stage. Et donc pendant l'été, on propose des stages de cinq jours de la semaine pour les enfants.
Est-ce qu'ils mangent du cheval ?
Ils ne mangent pas du cheval, non.
Non ?
Non.
Est-ce que toi tu manges du cheval ?
Je ne mange plus de cheval, j'en ai mangé toute mon enfance. Ouais, parce que dans mon enfance, ma mère nous faisait manger du cheval et on allait à la boucherie chevaline.
Pourquoi tu ne manges pas du cheval alors peut-être tu manges de la vache?
Je ne peux plus.
Tu manges
j'ai
plus
essayé,
de viande?
Alors déjà, je ne mange pas beaucoup de viande, mais donc, du cheval, j'ai du mal.
C'est pareil, non mais je comprends. Ouais. Voilà. Moi, c'est pareil, j'ai un aquarium avec plein de poissons que j'élève et je mange du poisson.
Oui, mais tes poissons, tu ne travailles pas avec. Tu n'as pas un lien affectif avec, quand même, avec tes poissons.
Ben, si, mais après, je les fais sauter.
Oui, voilà. Ouais, c'est difficile.
Les guppies,
quand même.
Les petits guppies, mais ça
sauve. En sachant que parfois, il y a quand même des chevaux qui sont mangés, qui auraient pu travailler, quoi. Voilà.
D'accord.
Mais ceci dit, je respecte tout à fait les mangeurs de viande de cheval, parce que on sait très bien qu'aujourd'hui, la race lourde existe encore parce que certaines personnes mangent du cheval. Bien, si aujourd'hui plus personne ne mangeait la viande de cheval, il y aurait plus de chevaux lourds. Enfin, il y aurait beaucoup moins de chevaux lourds, quoi.
Oui,
donc voilà, je respecte ce choix-là. Moi, je mange pas beaucoup de viande et donc à choisir, je mange pas de cheval. Mais bon, voilà.
D'accord. Alors le.
Je peux parler aussi des stages adultes puisque j'ai parlé des stages enfants. Mais on propose aussi des stages adultes qui sont plutôt hors vacances et qui sont des stages vraiment personnalisés où les gens peuvent venir une journée, deux jours avec hébergement, ou plusieurs jours, ou plus que 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, avec ou sans leurs chevaux, puisque nous pouvons loger les personnes chez nous et les chevaux également à la maison. Voilà. Et là encore, sur les stages adultes, je vais proposer des stages totalement personnalisés et vraiment à l'écoute de la personne et de ce qu'elle cherche avec son cheval ou en équitation pour elle-même. Et je peux faire travailler des gens sur diverses formes. Quoi. Voilà. J'ai des personnes handicapées qui m'ont appelé, par exemple, ou des cavaliers. Voilà.
D'accord. Qui dit cheval peut dire western, qui dit western peut dire Manu Chao, qui dit Manu Chao dit Meliaman Calle. On écoute.
Me llaman calle pisando baldosa, la revoltosa y tan perdida. Me llaman calle, calle de noche, calle de día. Me llaman calle, hoy tan cansada, hoy tan vacía, como maquinita por la gran ciudad. Me llaman calle, me subo a tu coche. Me llaman calle de malegría, calle dolida, calle cansada de tanto amar. Voy calle abajo, voy calle arriba, no me rebajo ni por la vida. Me llaman calle y ese es mi orgullo. Yo sé que un día llegará, yo sé que un día vendrá mi suerte. Un día me vendrá a buscar a la salida un hombre bueno, pa' toda la vida y sin pagar. Mi corazón no es de alquilar. Me llaman calle, me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, calle más calle. Me llaman calle, la sin futuro. Me llaman calle, la sin salida. Me llaman calle, calle más calle. La que mujeres de la vida suben pa' abajo, bajan pa' arriba. Como maquinita por la gran ciudad. Me llaman calle, me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, calle más calle. Me llaman siempre y a cualquier hora. Me llaman guapa siempre a deshora. Me llaman puta también princesa. Me llaman calle es mi nobleza. Me llaman calle, calle sufrida, calle perdida de tanto amar. Me llaman calle, me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar.
A la Puri, a la Carmen, Carolina, Viviana, Pereira, Pasa, Marga, Heidi, Marcela, Jenny, Tatiana, Rudy, Mónica, María.
On m'appelle La Rue, Manu Chao, Meliaman Calle. Alors tu as plein de choses à nous dire là, tu fais plein d'autres trucs.
Oui, je fais d'autres choses, oui. Donc à Saint-Gauzy, on fait également de l'accueil de randonneurs. On accueille des randonneurs pédestres ou équestres en gîte. Voilà, c'est arrivé qu'on a accueilli plusieurs groupes sur le chemin de Compostelle, puisqu'il y a une partie du chemin de Compostelle, enfin du nouveau chemin de Compostelle, qui passe par la Rouquette. Donc on va chercher les gens avec notre fourgon et ils viennent loger chez nous pour une nuit. Voilà. Donc ça, c'est aussi une activité que nous proposons, quoi. Et ensuite, dans les activités, dans les choses que je propose, je fais aujourd'hui un travail de médiation avec mes poneys, de médiation en milieu scolaire. Donc je vais à l'école de Pendariès avec mes poneys et nous travaillons sur un vrai projet d'école, puis c'est un projet de l'année où on a 15 séances à faire ensemble et on travaille sur la relation à l'autre et sur les attitudes corporelles et la relation à l'animal et on se sert en fait de la relation de l'animal pour travailler sur la relation à l'autre. Donc je travaille avec une classe de CP Et voilà, c'est un vrai boulot, hein, parce qu'ils sont 30, donc on travaille avec deux groupes de 15. Et là, aujourd'hui, nous sommes sur le déplacement des poneys, donc faire déplacer un poney dans de bonnes conditions de sécurité, en faisant attention à lui et en regardant s'il est d'accord ou pas d'accord, le conserver à sa place derrière nous, le faire reculer, et le transmettre à son copain sans s'énerver, sans être violent, voilà. Donc tout ça c'est un vrai travail sur un projet d'école, donc qui est mené avec la directrice de l'école de Pennariès. Et l'année dernière, je suis aussi intervenue sur cette école. Je suis intervenue sur une classe de CE2, et c'était également très intéressant. Voilà, donc ça fait partie des projets que je souhaite développer. La médiation en milieu scolaire et la médiation tout court d'ailleurs, hein, c'est-à-dire que je peux également proposer de la médiation en entreprise où on va travailler sur la relation à l'autre et sur... En fait, le gros intérêt, c'est que le cheval est un vrai miroir de nos comportements et de notre état psychologique. Donc, il va tout de suite répondre à notre façon de nous comporter et à notre façon d'être avec lui. Et donc, si on arrive à décoder la réponse du cheval, on peut faire travailler les gens sur eux. Et c'est toujours très intéressant. Voilà. Donc, j'aime bien faire travailler les gens sur eux à travers le cheval.
Il y a des gamins qui sont méchants avec les animaux.
Il y a des gamins qui sont méchants entre eux. Peu de gamins sont méchants avec les animaux. Moi, j'ai quand même... très peu eu d'enfants méchants avec les animaux, mais aussi parce que on est là, on les surveille et on leur donne quand même toute une conscience de l'animal. Ça peut arriver que mes enfants soient un peu violents quand ils n'arrivent pas à faire quelque chose, mais bon, chez nous, ils sont repris immédiatement, quoi. C'est-à-dire que c'est pas du tout possible. Ça peut arriver aussi que des enfants râlent parce qu'ils n'arrivent pas à faire un exercice et ils imputent la responsabilité au cheval. Et moi, je suis toujours très très ferme là-dessus en leur disant que oui, certes, le cheval il a peut-être pas trop envie de le faire ce jour-là. Déjà, il a le droit de pas avoir trop envie de le faire. Ensuite, c'est à nous de le motiver à le faire. Et puis voilà, dans la vie, c'est aussi prendre en compte la différence de chacun et chaque poney a ses qualités et ses défauts. Et un poney qui est un peu plus difficile à diriger, par contre, il peut être très gentil. Donc, j'essaie toujours d'insister sur les qualités de l'animal et toujours, je reprends toujours les enfants qui pourraient avoir des moments d'impatience par rapport aux chevaux en étant pas contents de ce que donne le cheval. Voilà, et je reprends toujours ça par rapport au. Par rapport au groupe d'enfants, c'est-à-dire que voilà, l'idée c'est de faire que les enfants fonctionnent bien entre eux, parce que par contre les enfants peuvent être vite violents entre eux, vite pas très gentils entre eux, voilà. Et voilà, donc c'est
les jeunes asiatiques font pas mal de cheval d'ailleurs, on le dit, si jeune est déjà poney. Bon, alors ça n'a aucun rapport, ça c'est fait. C'est nul complet. Bon, alors il me fait signe que c'est la fin. Non, pas du tout. Ah bon. Il me faisait signe que la blague était nulle. Bon, c'est juste ça. Qu'est-ce que tu penses des chevaux de cirque ?
Chevaux de cirque ? Alors,
Souffrent ? Ils ne souffrent pas ? Les embêtent ? Je ne sais pas. Il y a beaucoup en ce moment de procès contre les animaux de cirque, hein, parce qu'il ne faut pas le faire, patati banane.
Alors, les chevaux pas gentil pour les cirque, animaux. Je pense qu'il y a des chevaux de cirque comme de propriétaires, comme de centres équestres, comme des chevaux de n'importe qui sont heureux et qui sont bien placés. Et il y en a qui sont malheureux et qui sont mal placés. Ça dépend vraiment de la personne qui s'en occupe, de comment on procède avec eux et ce qu'on leur demande, quoi. Voilà. Il y a des cirques qui sont très respectueux des animaux et qui vont, et les chevaux vont trouver leur compte à travailler. Et il y en a d'autres où ça va pas du tout être le cas, quoi. La différence entre un cheval quand même et un lion ou un tigre, c'est que un cheval, il va s'accommoder quand même d'être proche de l'homme, d'aller au pré que de temps en temps. Je veux dire, un cheval qui vit en boxe, il est pas vraiment heureux non plus, hein. Les chevaux sont faits pour vivre dans un pré avec des copains et à marcher toute la journée. Donc dans un centre équestre enfermé dans un box toute la journée, c'est pas non plus le top pour lui, quoi. Donc un cheval de cirque qui est avec un bon dresseur, qui fait ça en accord avec lui, en faisant attention à ce qu'il fait, et qui soigne son animal comme il faut, qui le met de temps en temps dans un pré quand il a l'occasion, je pense qu'il n'est pas malheureux. Après, un cheval de cirque qui est maltraité parce que le dresseur, c'est un mauvais dresseur, qui comprend rien aux animaux, qui le dresse avec la force et aucun respect, oui, il va être malheureux, quoi. Voilà.
Ok. Bon, on écoute rien du tout parce qu'il me dit qu'il reste que 2 minutes, c'est tout. Eh ben alors, voilà. Alors tu vas redire le contact.
Alors je redis le contact. Donc le contact, c'est Ferme Équestre de Saint-Gauzy, Marie-Noëlle Gachet, sur le 06 07 53 02 37. 06 07 53 02 37.
Et le site alors ?
Et le site www.equigauzy12.fr. Donc equi, E-Q-U-I-G-A-U-Z-Y, 12.fr.
D'accord, eh bien c'est vite passé.
Eh oui, c'est
moi,
vite passé.
Moi j'avais plein de questions, il faudra que tu reviennes.
Mais
plein,
quand tu veux,
plein,
Michel.
Plein de questions à te poser. Ouais.
Ouais.
Bon, eh bien, il faut dire vive le cheval. Et on va se quitter, mais donc je te... Qu'est-ce que tu as rajouté vite fait avant qu'on se quitte, donc avec Brassens et les sabots d'Hélène?
Ben, j'ai rajouté que voilà, moi j'essaye de faire passer un message particulier par rapport aux chevaux, et un message particulier d'attention à l'autre. Et c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de développer, que j'ai vraiment envie que les gens sachent, et que ça peut vraiment... le fait d'être attentif à l'autre, que ça soit le cheval ou
d'être humain,
à l'autre en général, procure beaucoup de bien-être. Voilà. C'est un peu un message de vie. Voilà.
Merci d'être venu. On n'a pas pu écouter Angie des Rolling Stones et Couleur Café d'Eddie Mitchell. Donc on se quitte avec Georges Brassens. Merci Marie-Noëlle. Merci Johan et merci les jeunes.
Merci à vous tous.
Et aux auditeurs. À la semaine prochaine. Ciao.
Hélène était tout crottée, les trois capitaines l'auraient appelée vilaine, et la pauvre Hélène était comme une âme en peine, ne cherche plus longtemps de fontaine, toi qui as besoin d'eau, ne cherche plus aux larmes d'Hélène, va t'en remplir ton seau, moi j'ai pris la peine de les déchausser. Les sabots d'Hélène, moi qui ne suis pas capitaine, et j'ai vu ma peine bien récompensée dans les sabots de la pauvre Hélène, dans ses sabots crottés. Moi j'ai trouvé les pieds d'une reine et je les ai gardés. Son jupon de laine était tout mité. Les trois capitaines l'auraient appelée vilaine, et la pauvre Hélène était comme une âme en peine, ne cherche plus longtemps de fontaine, toi qui as besoin d'eau, ne cherche plus aux larmes d'Hélène, va t'en remplir ton seau, moi j'ai pris la peine de le retrousser. Le jupon d'Hélène, moi qui ne suis pas capitaine, et j'ai vu ma peine bien récompensée sous le jupon de la pauvre Hélène, sous son jupon mité. Moi j'ai trouvé des jambes de reine et je les ai gardées, et le cœur d'Hélène ne savait pas chanter. Les trois capitaines l'auraient appelée vilaine, et la pauvre Hélène était comme une âme en peine, ne cherche plus longtemps de fontaine, toi qui as besoin d'eau, ne cherche plus aux larmes d'Hélène, va t'en remplir ton seau, moi j'ai pris la peine de m'y arrêter. Dans le cœur d'Hélène, moi qui ne suis pas capitaine, et j'ai vu ma peine bien récompensée. Et dans le cœur de la pauvre Hélène, qui avait jamais chanté, Moi j'ai trouvé l'amour d'une reine et moi je l'ai gardé.